Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Quels bouleversements sur le vivant peuvent naître du réchauffement de l'océan ? Avec Sylvie Dufour.
Quand le commun des mortels regarde la température de baignade, le sage montre le cercle vicieux des dérèglements écologiques qui menacent tout le vivant de la planète à cause du réchauffement océanique. Et nous avons aujourd'hui une sage pour nous l'expliquer. Il s'agit de Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors on parle beaucoup du réchauffement des océans, mais sans qu'on sache trop ni pourquoi ni comment. Qu'est-ce qui cause cette hausse des températures et quelles conséquences cela a-t-il sur les masses d'eau ?
Alors depuis plus de 30 ans, les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont alerté sur le réchauffement de la température de notre biosphère du fait de la production des gaz à effet de serre par les activités humaines. Mais ce qui est moins connu, c'est que l'océan s'est réchauffé et joue un rôle très important dans ce système. En fait, aujourd'hui, avec la diffusion des connaissances sur le réchauffement climatique, on peut dire qu'il n'y a plus de climato-sceptiques, qu'on pourrait appeler même climato-négationnistes, il y en a vraiment de moins en moins. Mais il y a peu de connaissances sur le réchauffement de l'océan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'océan a absorbé plus de 90% de l'excès de température produit par nos activités industrielles et les gaz à effet de serre. Et c'est donc énorme, plus de 90%. Il nous a en fait protégés d'un réchauffement encore plus important qui serait produit dans notre atmosphère. Mais ce réchauffement a des conséquences très importantes sur l'océan lui-même, sur ses propriétés et sur la vie qu'il abrite. Alors la vie de l'océan est soumise à cette élévation de température et l'autre phénomène qui se passe, c'est l'élévation du niveau de la mer qui est due à deux phénomènes, la dilatation de l'eau due à son réchauffement et puis la fonte des glaces, glaciers, banquises.
Pour nous faire comprendre à quel point tout est lié, tout se tient, est-ce que vous pourriez nous expliquer la notion de service écosystémique à partir de la figure du corail et combien ce dernier est aujourd'hui affecté par le réchauffement de l'océan ?
Alors, les récifs coralliens, je pense qu'ils sont présents à l'esprit de chacun avec les images magnifiques des atolls, puis de la grande vie qu'ils abritent, tous ces poissons coralliens splendides. Pour les plongeurs amateurs, mais aussi pour les pêcheurs des régions tropicales qui vivent de cette grande biodiversité. Alors, les récifs, ils sont construits par des tout petits animaux, les polypes des coraux, qui sont capables, par leur squelette calcaire, de construire ces structures qui peuvent être immenses. Et alors, avec les plongeurs amateurs ou les pêcheurs, on a déjà deux exemples de ce qu'on appelle les services rendus par cet écosystème, c'est-à-dire les bienfaits, les bénéfices qu'apporte la nature aux sociétés humaines. Alors ça, c'en est deux exemples importants, les pêches locales pour les sociétés tropicales et puis toute cette activité touristique qui peut se développer autour des récifs. Et il y a une troisième fonction, un troisième service donc écosystémique rendu par les récifs coralliens, qui est moins connu mais qui n'est pas moins important, c'est le rôle structurel de barrière physique qu'ils représentent et qui protège en fait les côtes et les sociétés humaines qui habitent sur ces côtes des grandes vagues, des tempêtes, des ouragans et aussi dans une certaine mesure des tsunamis. Or, à l'heure actuelle, on assiste à une destruction, une mort vraiment importante des coraux. On considère aujourd'hui qu'il y a environ 20% des récifs coralliens qui ont été détruits, dans les dernières décennies, que 25% sont en grand danger et que si le réchauffement continue, ça va être la totalité. Alors pourquoi le réchauffement actuel de l'océan détruit les coraux? C'est un des phénomènes qu'on appelle le blanchissement des coraux. Les coraux, en fait, vivent en symbiose, c'est-à-dire en association avec une petite algue qui fait de la photosynthèse, comme les plantes vertes sur Terre, qui est capable de fixer l'oxygène et de produire de la matière organique à partir du CO2, et qui, en fait, fournit de l'alimentation aux coraux. Or, sous le fait du réchauffement, le corail expulse cette algue, il y a dissociation de cette synergie, et le coraux blanchit et peut conduire à la mort des coraux.
Avec des conséquences pour évidemment la faune et la flore qui vit de lui en fait.
Exactement, toute cette biodiversité qui est associée à l'habitat récif corallien.
Alors on entend la myriade de conséquences qu'il y a sur le récif corallien, mais ça n'allait pas le seul à être impacté par le réchauffement océanique, puisque toute la biodiversité marine et les écosystèmes côtiers sont fragilisés par des causes multiples. Est-ce que vous pourriez nous les énumérer?
Alors déjà, le fait que l'océan se réchauffe affecte toute la vie qu'il abrite. Nous, espèces humaines, on sait qu'on est capable de réguler notre température corporelle à 37 degrés, mais on sait aussi tous les effets désastreux qu'on peut subir si on a des fortes chaleurs ou une forte fièvre. Mais la majorité des animaux qui vivent en mer ne sont pas capables de réguler leur température, à l'exception des oiseaux marins ou des mammifères marins qui, en fait, sont retournés en mer. Donc, toute cette diversité marine est impactée par le réchauffement dans tout son fonctionnement, son développement, sa reproduction, avec des effets qui peuvent être vitaux. Et pour les espèces qui sont capables de bouger, par exemple les poissons, on assiste à des migrations, les espèces qui vont vers des eaux plus fraîches. Alors c'est des phénomènes qu'on peut observer chez nous, par exemple en Bretagne avec l'arrivée en grande masse de dorades qui peuvent s'attaquer aux parcs à huîtres, mais qui peuvent être aussi source de nouvelles pêcheries. Mais ce qui est grave, c'est qu'on voit ces migrations de poissons tropicaux vers les eaux plus froides de l'hémisphère nord, par exemple, avec la perte des possibilités de pêcherie pour les populations humaines locales qui vivent de cette activité-là. Donc on a là encore un effet sur les pays les plus pauvres qui subissent les graves conséquences de ce réchauffement global qui vient en fait de l'activité des pays développés. À côté de ce réchauffement, un des grands changements actuels pour l'océan, c'est la montée du niveau de l'eau, qui monte en moyenne d'un centimètre par an. Ça fait déjà plus de 20 centimètres maintenant. Et c'est mesuré de façon très précise par les mesures satellitaires. Et ça va s'accentuer. Et il y a des conséquences, là encore, extrêmement graves sur les sociétés humaines. Il s'agit des îles du Pacifique qui vont être submergées et dont les peuples ont sonné l'alarme. Mais il s'agit aussi plus largement d'un très grand nombre de pays, comme on considère que plus la moitié de la population humaine habite en fait à moins de 100 km des côtes. Et il s'agit comme ça aussi bien de petits villages que de très grandes villes côtières, et en particulier des mégapoles en Asie ou en Afrique. Alors bien sûr, il y a aussi des villes comme aux États-Unis ou en Europe qui pourront être touchées, mais là, c'est des pays développés qui pourront trouver des solutions. Mais qu'est-ce qu'il en est des pays pauvres? Et c'est une responsabilité, là encore, qu'on leur doit.
Ce que vous venez de décrire avec l'élévation du niveau des eaux et la perte de la biodiversité, c'est un cercle vicieux avec des dégâts qui s'additionnent jusqu'à l'irréversible. Justement, est-ce qu'on va atteindre cet irréversible? Est-ce que le cercle est sans fin ou est-ce qu'on peut s'attendre à une version un peu plus optimiste où on met fin au dérèglement avec des solutions concrètes?
Alors, il faut bien garder toujours à l'esprit que ce réchauffement de l'océan et la montée des eaux sont dus à la part que l'océan a pris dans l'absorption de cette chaleur due aux gaz à effet de serre. Comme pour le climat en général, il faut donc réduire nos émissions par la sobriété énergétique et par les énergies alternatives. Mais même ainsi, Il n'y aura pas de retour en arrière. L'océan ne va pas se refroidir et la mer ne va pas redescendre. Et même les phénomènes vont continuer de s'amplifier, même dans le meilleur des cas. Donc, pour la montée des eaux, il y a des solutions à envisager et à partager avec l'adaptation des plans d'urbanisation, l'adaptation de nouveaux modes d'architecture, changement de structure des ports, des systèmes de protection des côtes. Et ça va bien sûr jusque malheureusement le déplacement programmé de populations humaines entières, d'îles qui vont être submergées ou aussi de grandes villes qui vont être inondées. Alors bien sûr, il y a des solutions qui pourront être mises en œuvre, en particulier dans des pays riches, déjà engagés experts dans ce domaine, comme par exemple aux Pays-Bas, où ils sont très en avance sur des solutions d'urbanisme et d'architecture. Mais ces solutions, il faudra qu'elles soient partagées, offertes et appliquées dans les pays pauvres qui subissent toutes ces conséquences. C'est vraiment là une responsabilité et un devoir de justice environnementale.
Pour conclure cet épisode, il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale, peut-on entendre dans les marches pour le climat à propos des pays riches qui pillent les ressources des pays pauvres ou qui y envoient leurs déchets. Est-ce que cette rhétorique peut prévaloir ici, dans la mesure où les océans se réchauffent partout de façon aveugle ?
Oui, tout à fait. L'océan, c'est un bien commun de l'ensemble de l'humanité et qu'on partage tous ensemble et qui subit les conséquences des activités des uns sur l'ensemble de l'humanité. Et ce que vous dites, c'est plus que jamais valable. Le réchauffement de l'océan et la montée des eaux, ce sont les conséquences du réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre qui résulte essentiellement des activités depuis un siècle des pays riches et qui affecte l'ensemble de la planète, l'ensemble de l'océan et en particulier les pays pauvres. Comme on a cité, ça va des petites îles qui vont être submergées jusqu'aux mégapoles asiatiques ou africaines et qui vont entraîner des migrations de populations humaines. C'est aussi le problème pour les ressources de la pêche dont on a parlé. Les pays du Nord, ils s'adapteront bien, ils pourront même pêcher des poissons venus d'eau plus chaude. Mais pour les pays tropicaux, la perte des poissons sur lesquels est basée la survie économique et culturelle des sociétés locales, du fait de la mort des récifs coralliens et aussi du fait de la migration des poissons vers des eaux plus froides, vers le Nord, ça aura des conséquences très graves sur la survie de ces sociétés. Et donc, il faut vraiment que les pays riches participent à l'adaptation des pays pauvres. C'est une justice environnementale. De même que la désertification, le réchauffement d'océan et la montée des eaux vont entraîner des migrations humaines. Et de même qu'il y a le statut de réfugié politique, il faut vraiment reconnaître le statut de réfugié climatique.
Eh bien, écoutez, il va falloir beaucoup, beaucoup s'adapter pour faire face aux dérèglements océaniques et à minima, effectivement, créer ce statut de réfugié climatique pour les centaines de millions de personnes qui devront quitter leur habitat dans le sud et charge aux pays riches de les accueillir. Merci beaucoup, Sylvie Dufaux.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.